une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leur troupe sillonne nos ruelles?
Billets d'Afrique et d'ailleurs de ce mois de juin est inspiré des textes de la revue Décolonisant de l'excellente ONG Survie que je vous invite à découvrir, redécouvrir ou suivre. Bon été à vous et rendez-vous en octobre. L'Europe toujours plus forteresse. L'Union européenne poursuit inlassablement sa politique d'éradication des droits des migrantes et migrants. Grâce à une alliance droite-extrême droite, le Parlement européen a adopté un règlement permettant des expulsions toujours plus nombreuses et rapides. Le 26 mars, les eurodéputés ont voté un nouveau règlement au nom limpide « Retour ». Un acte législatif qui, selon Migreurope, qui en fournit une analyse détaillée, franchit de nouvelles lignes rouges en matière de droits des étrangers, criminalisation renforcée, encampement généralisé, externalisation tous azimuts, risques accrus pour leur intégrité physique et mentale, recul des droits institutionnalisés. Ce règlement vient remplacer une précédente directive de 2008, jugée pas assez contraignante et efficace par le Conseil européen, qui appelait dès 2024 à un nouveau cadre juridique pour accroître les taux de retour estimés bien trop insuffisants. Un texte durci tout au long de son processus d'élaboration entamé en 2025. C'est finalement une version portée par le député français vice-président des Républicains François-Xavier Bellamy, groupe du Parti populaire européen, qui a été proposée au Parlement européen et adoptée. L'occasion d'un nouveau front raciste entre la droite et l'extrême droite contre les exilés, un mois après leur vote commun pour adopter une liste de pays tiers sûrs ou renvoyer les personnes expulsées. Bellamy peut se vanter auprès de Valeurs Actuelles d'avoir remporté une victoire historique. Le règlement Retour porte un coup funeste aux droits des migrantes et migrants en établissant une série de procédures d'expulsion plus rapides, plus simples et plus efficaces des personnes sans droit de séjour dans l'Union européenne. Il vient compléter le pacte européen sur l'immigration et l'asile voté en 2024 qui violait déjà nombre de droits fondamentaux mais était jugé encore trop limité. Rompant avec la notion de départ volontaire de la directive de 2008, qui laissait en principe un délai avant une expulsion, ce règlement retour impose des expulsions forcées. De plus, pour empêcher les migrantes et migrants présents illégalement de se déplacer d'un État de l'Union européenne à un autre, les décisions d'expulsion prises par un État membre peuvent désormais être exécutées par les autres, et ce, sans avoir à relancer toute une procédure administrative. Autre régression majeure, le texte maintient bien hypocritement le droit au recours contre une décision de renvoi, mais l'exercice de ce droit ne suspend plus automatiquement l'expulsion. Quant aux personnes frappées d'une mesure d'expulsion, elles sont soumises à une obligation de coopération sous peine de sanctions financières et pénales. Pour résoudre l'obstacle de pays refusant de réadmettre leurs ressortissants, le règlement innove. L'Union subordonnera désormais l'octroi de visas, la conclusion d'accords commerciaux et l'aide au développement au niveau de coopération des pays tiers en matière de réadmission. En même temps, le texte valide les expulsions dans des pays soi-disant sûrs avec lesquels l'Union européenne ou ses États membres ont conclu des accords pour accueillir ceux et celles qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine sans aucune garantie que soient respectés leurs droits. Considéré jusque-là comme devant intervenir en dernier ressort, l'enfermement devient quasi systématique dans cette nouvelle législation qui multiplie les motifs de détention. Vérification d'identité et de nationalité, refus de coopérer, entrave à la procédure de renvoi, risque de fuite, etc. Y compris pour les personnes considérées vulnérables. La rétention des familles accompagnées de mineurs est désormais autorisée. Également celle de mineurs isolés en dernier recours pour garantir l'exécution effective des décisions d'éloignement. Un enfermement dont la durée maximale passe de 18 à 24 mois, prolongeable indéfiniment en cas de menace à l'ordre public ou à la sécurité. En aggravant ou créant de nouvelles violations des droits à l'échelle transnationale, ce règlement, ainsi que le dénonce Migro Europe, illustre surtout l'obsession antimigratoire européenne et l'adhésion aux idées d'extrême droite qui gangrènent tant l'espace public que les institutions de l'Union. Et renforce encore au sein de l'Union européenne une véritable machine de guerre raciste contre les migrantes et les migrants, au mépris des droits humains, qu'il est de plus en plus urgent de défendre. Enfin, un procès contre Bolloré. Vincent Bolloré est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris en même temps que deux cadres de son groupe, Gilles Alix, ex-directeur général, et Jean-Philippe Doran, dirigeant de la filiale Havas, anciennement Euro-RSCG. Ils seront jugés pour corruption d'agents publics étrangers au Togo et complicité d'abus de confiance au Togo et en Guinée. Selon l'ordonnance de renvoi, Bolloré et Alix ont décidé ensemble la prise en charge de frais de campagne de deux candidats, les présidents Faure Gnassingbé au Togo et Alpha Condé en Guinée, lors des présidentielles de 2010. L'enquête du parquet national financier, PNF, établit en effet qu'Euro-RSCG a fourni des prestations à Gnassingbé à un prix sous-évalué, 100 000 euros, le solde 300 000 euros ayant été facturé à SDV, autre filiale du groupe. Le groupe Bolloré s'est vu récompensé par une extension de la durée de la concession du port de Lomé. L'enquête montre une opération quasi identique en Guinée au profit de Condé qui, élu, confiait la concession du port de Conakry à la multinationale. En 2021, Bolloré avait reconnu les faits, espérant ainsi éviter un procès. Contre l'abandon des poursuites, il avait réglé une amende de 12 millions d'euros dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, puis négocié avec le PNF une amende de 375 000 euros dans le cadre d'une procédure de plaider coupable. Sauf que, patatras, une juge, estimant la peine trop clémente, a refusé d'homologuer l'accord avec le PNF, renvoyant le dossier à l'instruction. Le procès est fixé en décembre. Le milliardaire d'extrême droite risque jusqu'à 10 ans de prison.
Come on, my father.
à Madagascar un extractivisme linguistique au service de l'intelligence artificielle francophone. Si les récents événements ont rappelé l'intérêt géostratégique de la France à maintenir son implantation à Madagascar, cette dernière permet également à de nombreuses entreprises tricolores d'y sous-traiter des services indispensables, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Entre ChatGPT, Mistral ou encore Claude, le développement de l'intelligence artificielle attire aujourd'hui toutes les attentions. Mais la part importante du travail humain nécessaire à son développement est moins connue. Pour l'IA francophone, ce travail repose en grande partie sur des personnes malgaches qui mettent ainsi leurs connaissances de la langue et de la culture française au service d'entreprises françaises ou francophones. Rembobinons. Avant la colonisation, plusieurs parlers issus de la même famille linguistique austronésienne coexistaient à Madagascar. Au XIXe siècle, le royaume Mérina développe une administration centralisée depuis Antananarivo, unifiant une partie du pays sous son contrôle. Sa variante linguistique devient alors la première forme écrite et standardisée du malgache, utilisée dans l'administration et les échanges officiels. Les autres royaumes et régions continuent cependant à employer leur variante locale. Madagascar est colonisé par la France en 1896 et placé sous son administration. Celle-ci y impose une organisation économique fondée sur l'extractivisme des nombreuses ressources de la Grande Île, café, vanille, minerais, bois. Et après l'insurrection de 1947, dont la répression violente fait jusqu'à une centaine de milliers de morts du côté malgache, Madagascar obtient officiellement son indépendance en 1960. Mais la France reste un acteur clé du pays, maintenant en partie l'organisation politique et économique coloniale à travers les élites francophones et une administration calquée sur le modèle français. La langue française reste dominante dans l'enseignement et les institutions, alors que le malgache n'est enseigné à l'école que comme une langue secondaire. Cette diglossie, c'est-à-dire une pratique de deux langues au statut hiérarchiquement différent, renforce les inégalités sociales, le français étant surtout valorisé dans l'administration et les milieux scolaires favorisés, tandis que le malgache reste la langue majoritaire du quotidien. En mai 1972, les voix malgaches réclament la fin de cet ordre établi, en particulier dans l'enseignement. Ce qui mène à la Deuxième République et à la malgachisation engagée par le président Didier Ratsiraka, qui vise à réduire l'influence française dans l'administration, l'économie et surtout l'éducation. La politique linguistique de l'État malgache reste complexe et instable, avec une hiérarchisation variable des langues selon le pouvoir en place. En 2007, le président Ravalomanana ajoute l'anglais aux langues officielles, alors que celui-ci est absent du pays. Un ajout annulé par les régimes suivants. À partir de 2010, le pays se réoriente vers la promotion de la langue française et accueille même le sommet de la francophonie en 2016. À cette occasion, l'Observatoire malgache de la vie publique, le CEFAFI, soulignait que la population n'a cependant jamais été consultée sur la politique linguistique de son pays, alors même qu'elle soulève des enjeux sociaux fondamentaux. Selon les chiffres communiqués par Clément Duhem, numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie, seulement 6% de la population malgache maîtrisait le français oral et écrit en 2014. Une partie de ces malgaches francophones appartiennent à la classe dirigeante de la nation et continuent à être formés en France, ENA, Sciences Po, ENS, participant à maintenir la suprématie de la langue et des grandes écoles. La langue française se maintient ainsi comme un marqueur social de prestige. En conséquence, un bon niveau de français est requis pour accéder aux postes prestigieux de l'enseignement, de l'administration ou pour travailler dans des entreprises étrangères. C'est pourquoi un grand nombre de Malgaches se tournent eux aussi vers une éducation en français et à la française. Un phénomène d'autant plus marqué que Madagascar a conservé le système de scolarité français après 1960. En 2024, d'après l'OIF, Madagascar est le pays ayant le plus grand nombre d'apprenants inscrits dans les alliances françaises au niveau mondial. En parallèle, l'éducation primaire et secondaire privée francophone a une place prépondérante dans le pays. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, comptait pas moins de 22 écoles conventionnées sur l'île pour l'année 2024-2025. Une partie des élèves de ces écoles viennent ensuite poursuivre leurs études dans l'Hexagone. La même année, l'organisme de gestion des étudiants étrangers Campus France dénombrait 6324 malgaches inscrits dans des établissements supérieurs en France. La place de la francophonie a un double impact. L'image extrêmement prestigieuse de la langue française dans la vie sur le territoire maintient d'abord la domination culturelle et économique de l'île par la France, ce qui favorise également l'établissement à Madagascar de nombreux Français, entre 35 000 et 40 000 en 2024, et l'implantation de nombreuses entreprises tricolores. Aujourd'hui, cependant, dans ce pays parmi les plus pauvres du monde, la maîtrise du français n'est plus une condition suffisante pour accéder à un niveau de vie élevé. Et les entreprises de l'IA francophone en profitent. Comme les autres secteurs de la sous-traitance des services, celle-ci bénéficie ici de compétences de travailleurs parfaitement francophones, avec de très bas salaires. Le développement de l'IA au niveau mondial repose sur le travail d'annotatrices annotateurs, des humains, qui associent des images, des textes et des sons à des labels précis, alimentant la grande base de données sur lesquelles les IA s'entraînent. Ainsi, pour apprendre à identifier un chat sur une image, une IA a besoin d'une base de données contenant des milliers d'images de chats détourés et auxquelles le mot « chat » est associé. De la même manière, pour entraîner l'IA à la reconnaissance vocale, il est nécessaire de disposer de milliers d'heures d'enregistrement transcrits par de véritables personnes humaines. Comme d'autres avant elles, les entreprises de l'IA ont donc délocalisé ces tâches fastidieuses aux travailleuses et travailleurs qui leur coûtent le moins cher. Le travail d'annotation nécessite des compétences linguistiques, mais aussi des connaissances culturelles importantes sur le pays donneur d'ordre, en l'occurrence, dans le cas des données traitées à Madagascar, la France. Par exemple, lorsqu'une entreprise française souhaite entraîner une IA à reconnaître par vidéo le contenu des plateaux repas pour le facturer automatiquement à des consommateurs français, elle sous-traite la notation des vidéos de plateaux repas français à des annotatrices annotateurs malgaches qui doivent donc avoir une bonne connaissance des habitudes alimentaires françaises. Pour cette raison, les entreprises de l'IA des anciennes grandes puissances coloniales délocalisent le travail d'annotateurs dans leurs ex-colonies comme l'Inde et le Kenya pour l'IA francophone. À Madagascar, les entreprises de sous-traitance de la notation, comme celle de la sous-traitance des services de manière générale, bénéficient de la politique de zone franche de l'État malgache qui permet à des entreprises étrangères de l'agroalimentaire, de l'habillement et des technologies de l'information de s'implanter dans le pays en étant exonérées d'impôts. Dans ce dernier secteur, la grande majorité de ces sociétés sont détenues par des personnes ayant la nationalité française, 26 entreprises sur 48 pour seulement 9 détenues par des personnes de nationalité malgache. Dans sa thèse, le sociologue Clément Leludec qualifie cette situation de « data extractivisme », soit en français « extractivisme des données ». D'après son enquête, les annotatrices annotateurs sont plus qualifiées que la moyenne de la population malgache et ont bien sûr un bon niveau de français. Ils ont souvent été scolarisés dans le privé et ont des diplômes universitaires. Leurs compétences sont importantes et même indispensables à la production de jeux de données de qualité. Mais ces qualités sont bien peu reconnues par les entreprises de sous-traitance qui les emploient et qui bénéficient de la faiblesse du marché du travail malgache. Car les malgaches diplômés acceptent, faute de mieux, ces emplois à bas salaire, autour de 100 euros par mois. Par ailleurs, l'organisation du travail dans les entreprises de sous-traitance ne permet pas à ces travailleuses et travailleurs d'accéder à des postes de direction, des places occupées par des Françaises et Français. Travail de recherche d'Antoine Dumarché, Elio Caballo et Gala Alzabegoiti. L'extractivisme, qu'est-ce que c'est ? L'extractivisme est un concept introduit en France au début des années 1990 pour décrire initialement le pillage des ressources naturelles par des entités extérieures aux territoires exploités. Dans une perspective décoloniale, l'extractivisme devient une entreprise prédatrice d'un pouvoir colonial sur un territoire colonisé. Il participe de l'accaparement des terres et des ressources dans un rythme rapide, ne permettant pas leur renouvellement et entraînant la dépossession de ces ressources pour les populations locales. Si le concept permet au départ de décrire l'accaparement des ressources naturelles, l'importance de l'emprise de certains opérateurs privés et financiers sur d'autres types de ressources amène à étendre le concept à d'autres domaines comme le tourisme ou le développement immobilier urbain. Des auteurs comme Jane Preston, Julia Morris ou Christa Wichterich ont aussi développé le concept d'extractivisme racial pour parler de l'exploitation pour des filières en tension, de main-d'œuvre étrangère ou et de sans-papiers tolérés car nécessaires et exploités car précaires. Il a été choisi de reprendre les travaux des auteurs cités juste avant pour parler d'un extractivisme linguistique dans le cas de travailleuses et travailleurs de l'IA à Madagascar. En effet, la France et d'autres pays francophones profitent là de leur impact colonial pour revenir exploiter la main-d'œuvre de ces territoires. Le système néolibéral mondial permet l'implantation de projets basés sur l'exploitation d'une ressource locale, ici des travailleuses et travailleurs francophones à bas coût, et orientés vers une exportation massive du fruit de cette exploitation. La généreuse aide au développement. À l'occasion d'un changement de direction à l'Agence française du développement, à l'AFD, où Rémy Rioux doit céder sa place à Christophe Lecourtier, jusqu'ici ambassadeur au Maroc, un collectif s'émeut dans une tribune parue sur le site du Monde le 16 mars des critiques et baisses récentes de l'aide publique au développement, l'APD. Avec un argumentaire qui a le mérite de la clarté, l'aide au développement n'est pas une question de générosité, rappelle le texte signé notamment par un ancien directeur général de la Banque mondiale et plusieurs députés de droite, mais un instrument central de l'influence française et de soutien à nos entreprises. De fait, la générosité apparaît plus que jamais lointaine si l'on regarde comment se dessine l'APD après la baisse de 2025 d'un tiers de son enveloppe allouée par l'État, une baisse qui doit se poursuivre en 2026, même si l'AFD l'a compensé par des cofinancements divers, et c'est Jeune Afrique qu'il souligne le 11 mars 2026. Les dons sont ainsi passés l'an dernier de 10% de son activité contre 20% en 2023, les 90% restants étant des prêts. Les pays surendettés sont délaissés au profit des économies solides comme le Maroc, l'Égypte, le Kenya. L'AFD a également réduit son activité dans les domaines de la santé et de la protection sociale, moins 24%, de la formation professionnelle et de l'éducation, moins 49%, alors que l'allocation augmente pour l'énergie, plus 29%, la gouvernance et la gestion des migrations, plus 75%. Le courtier, ancien conseiller de Sarkozy et Lagarde, ne devrait pas infléchir cette tendance. La France est son plus grave déni colonial. La traite et l'esclavage des Africains a été déclaré plus grave crime contre l'humanité par les Nations Unies. Une mesure surtout symbolique, reposant sur une formulation superlative discutable, mais révélatrice du prisme colonial persistant en Occident, France y compris. Le 25 mars 2026, journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage, l'Assemblée nationale des Nations Unies voté à une très large majorité, 123 États sur 193, une résolution qualifiant la traite transatlantique et l'esclavage racialisé des Africains de plus graves crimes contre l'humanité. La mesure, portée par le Ghana au nom du groupe des États d'Afrique, a essentiellement valeur de symbole, mais elle révèle également le malaise évident des pays occidentaux sur le sujet. Il suffit pour s'en convaincre de regarder le détail des votes. Seuls 3 pays ont voté contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. Sans grande surprise, tant ceux-ci constituent aujourd'hui les figures de proue d'une internationale fasciste dévastatrice. 52 autres États ont préféré s'abstenir, parmi lesquels l'ensemble des membres de l'Union européenne, dont la France, bien sûr. Son représentant, Sylvain Fournel, a justifié la position tricolore par le risque d'une mise en concurrence des tragédies historiques qu'il n'y a pas lieu de comparer, sauf à le faire au détriment de la mémoire des victimes. Des arguments assez similaires à ceux avancés par le reste de l'Union européenne et le Royaume-Uni, lui aussi abstentionniste. Cette qualification de plus grave crime contre l'humanité, en semblant instaurer de fait une hiérarchie dans l'horreur, interroge en effet. On ne peut oublier que la traite négrière est inextricablement liée à la conquête de la totalité du continent américain et à l'extermination systématique de ses peuples autochtones, tragédie majeure de l'histoire humaine qui court jusqu'à nos jours. Difficile donc de suivre le chef de la diplomatie ghanéenne lorsque, pour défendre la résolution onusienne, il affirme que de toutes les atrocités qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, aucune autre n'a été aussi systématique, aussi longue que la traite transatlantique et l'esclavage. Pour autant, impossible de ne pas voir que les questionnements légitimes autour de cette formulation servent ici de prétexte bien commode à la France, comme aux autres puissances impérialistes, pour dissimuler les véritables raisons de son opposition, à peine maquillées au texte. Elles sont déjà d'ordre bassement pécuniaire. Derrière cette résolution se profile l'enjeu de réparation matérielle qui donne à l'Occident des sueurs froides, puisqu'elle pourrait se chiffrer en milliards d'euros. Cette revendication ne cesse de prendre de l'ampleur parmi nombre de pays ayant subi l'esclavage et la colonisation, et notamment au sein de l'Union africaine qui avait déjà fait de 2025 une année de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, l'a d'ailleurs affirmé clairement, la résolution portée par son pays vise à affirmer la vérité et tracer la voie vers la guérison, mais aussi vers la justice réparatrice. Mais ce qui gêne la France dans la résolution du 25 mars vient aussi, peut-être surtout, du lien qu'elle souligne entre traite et racialisation. et plus encore de son rappel que la hiérarchie raciale instaurée alors persiste aujourd'hui encore sous la forme d'un racisme structurel, d'inégalité raciale, de sous-développement, de marginalisation et de disparité socio-économique qui touche les Africains et les personnes d'ascendance africaine partout dans le monde. Une réalité que l'État français préférerait dissimuler, lui qui n'en a pas fini loin de là avec une histoire coloniale qui continue de s'écrire dans ses quartiers populaires, dans son ancien empire africain et dans ses outre-mer, Kanaky Nouvelle-Calédonie en tête. L'abstention française s'inscrit d'ailleurs dans un contexte national où le refus véhément de toute repentance coloniale, le racisme et la négrophobie envahissent le discours public, les réactions à l'élection de l'insoumis Bayi Bagayogo à la mairie de Saint-Denis Pierrefitte en ont encore donné récemment un exemple saisissant. Dans ce contexte, mettre en lumière les horreurs de la traite négrière, acte fondateur de la domination blanche, précurseur des colonisations à venir, annonciateur du capitalisme mondialisé et plus encore, s'avère pour le moins subversif. Le refus unanime du bloc occidental de voter la résolution du 25 mars ne relève donc pas tant d'une lâche réticence à reconnaître des crimes dont il a été le bénéficiaire, mais d'abord d'une détermination à ne pas compromettre en dénonçant ses fondements un ordre mondial actuel tout à leur avantage. Texte de Benoît Gaudin. Djibouti, le même et on recommence. On s'attendait à rien et on est quand même déçu. Le 10 avril, Ismaïl Omar Guelleh, IOG pour les intimes, a été élu pour la 6e fois président de la République de Djibouti avec un score tout France-Africain, 97,81% des voix, mieux que le Congolais Denis Sassou Nguesso avec ses seulement 95% obtenus en mars. L'opposition comptabilise cependant 80% d'abstention. Au pouvoir depuis 1999, IOG donc, devait pourtant passer la main la constitution interdisant les candidats de plus de 75 ans. Mais une révision constitutionnelle adoptée en novembre dernier lui a permis de se présenter, malgré ses 78 printemps, face à un candidat fantoche et une opposition divisée, une partie ayant appelé au boycott du scrutin. La raison de cette nouvelle candidature martelée lors de la campagne, la stabilité qu'incarnerait IOG pour une population djiboutienne qui doit être protégée et rassurée face à l'instabilité régionale. Quelle abnégation pour un peuple dont plus de 70% des jeunes sont au chômage et dont l'opposition est systématiquement muselée, sans compter les soupçons de crimes de guerre contre les populations afars. Mais s'il y en a qui sont vraiment rassurés, ce sont les partenaires de Djibouti, la France en tête. Alors que celle-ci a perdu la plupart de ses bases militaires en Afrique, qu'il lui est bon de pouvoir compter sur un IOG intouchable, dixit une source diplomatique française, pour garder sur le continent une assise solide et quelques 1500 soldats en permanence. Tant pis pour l'ingérence, l'autoritarisme et l'asphyxie des peuples.
Thank you. Yeah.